Des gens parlent, d'autres écrivent. Le faisant, nous savons tous que ce que nous essayons de traduire en mots est hors de notre portée. Un des moyens de s'en approcher serait peut-être de ne jamais s'écarter de la vie, de se tenir le plus près possible des victimes, faire connaissance avec chacun en son nom, explorer leur vie et le monde d'avant et dire pour réaliser non seulement ce qu'ils étaient, mais aussi ce qu'ils représentaient aux yeux des morts. Pour que 10 ans, ce qui leur est arrivé, nos mots, comme le mal qu'ils décrivent, soit à la fois absolu et irrévocable.
Dorcy Rugamba, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur, metteur en scène, comédien, co-auteur en 2000 de la pièce Rwanda 94 et de passage au théâtre d'Arras ces jours-ci pour y présenter cette lecture spectacle Eva Rwanda, lettre aux absents. C'est un récit intime qui évoque le sort de votre famille, de vos proches, assassinés le premier jour du génocide le 7 avril 1994. Alors est-ce que vous pouvez d'abord nous parler de ce choix, de cette perspective dans ce texte?
C'est un texte qui est arrivé 30 ans après le génocide. Donc j'ai écrit un livre qui est sorti l'année passée. Et c'est la première fois que je traite d'un sujet personnel. Et personnel et à ce point intime qui parle des miens, de ma famille. Disons que le génocide est devenu dans mon travail quand même un des éléments centraux. Je n'ai pas seulement travaillé sur ce sujet, mais beaucoup aussi quand même sur la violence politique. J'ai travaillé aussi sur d'autres génocides, mais sur d'autres sujets qui sont beaucoup plus éloignés en fait de celui-ci. Mais après 30 ans, il m'a semblé absolument important de pouvoir transmettre, parce que les gens commencent aussi à disparaître dans la mémoire des vivants. Et c'était pour moi extrêmement important, surtout pour la prochaine génération. Le Rwanda aujourd'hui est occupé à 70% de gens qui n'étaient pas nés pendant le génocide. C'est un pays très jeune, comme souvent les pays d'Afrique. 70% des Rwandais ont moins de 30 ans. Donc ils n'ont pas une expérience empirique de ce qui s'est passé. Moi-même, j'ai des enfants et je leur dois aussi une part de l'histoire, une part de la vérité. Disons que pendant très longtemps, cette histoire a été difficile pour moi à raconter. Je ne trouvais pas les mots. C'est souvent, ça prend du temps. Il faut déjà pouvoir sortir de la sidération. Et donc, ça me paraissait très important vraiment de sortir de la grande histoire, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. Il y a les grands événements, il y a les dates, les chronologies, les chiffres impressionnants de victimes. Et souvent, c'est ça qui est retenu par le grand public. Et les victimes elles-mêmes tendent alors du coup à disparaître sous le gigantisme de l'histoire. On ne sait pas qui ils étaient, quelle était leur vie. Et leur tendent totalement à disparaître, devenus plus que des nombres. Et c'est contre cette seconde mort-là que j'ai voulu freiner, tout simplement. Leur donner un visage, un nom, raconter quelle était leur vie, et moi me focaliser sur leur mort.
Alors pendant tout spectacle, on voit en arrière-plan cette photo de votre famille, hein, de vos proches. Une photo qui passe du noir au blanc, du noir et blanc à la couleur et inversement. On voit ces visages souriants. Je ne sais pas si c'est un jour de fête, peut-être un mot sur cette photo qui est la toile du fond du spectacle.
Oui, c'est une photo heureuse. C'est une photo. D'abord, c'est la dernière photo de famille où la famille est totalement au complet. Elle date de 2 ans. Avant le génocide, c'était le jour de fête parce que c'était le jour de confirmation de ma sœur, la toute petite, l'avant-dernière, qui est morte à 9 ans. Et alors, elle est endimanchée, elle porte une croix, la famille est là, elle est rassemblée. C'est un moment de joie. Et cette photo m'est parvenue après, parce que... Après, en fait, on n'avait plus rien. Je raconte ça aussi dans le récit, comment je retourne à la maison et que la maison est totalement vide. Et les vides de personnes, mais aussi les vides de toute trace de vie. Parce qu'après, les tueurs, les pillards aussi sont passés. Heureusement, après, des amis ont commencé à nous envoyer des photos. À l'époque, il n'y avait pas de photos numériques, donc certaines photos sont même parvenues bien longtemps plus tard, parce que les gens avaient des négatifs chez eux et les ont développées plus tard. Et j'ai trouvé que c'était ça que j'avais envie de transmettre. Des vivants, qu'on leur voit vraiment comme une famille qu'on pourra en trouver un peu partout, heureuse, mais aussi qu'on se figure qu'ils aient un visage, et y compris sur le livre que j'ai sorti, la couverture aussi possède une photo. C'était pour moi absolument important que ce soit le plus concret possible. Mais c'est aussi une forme, dans la forme, la photo passe du noir au blanc, presque du sépia. En fait, la photo du noir et blanc, c'est une photo historique. Et donc, ils deviennent d'une certaine manière des ancêtres en l'espace d'un temps très très court et symbolisé comme ça, dans une forme très épurée.
Alors dans votre récit, il est beaucoup question de vos deux parents, votre père, votre mère, qui étaient des personnes importantes pour la communauté, hein, des personnes qui ont été canonisées aussi. Mais vous en parlez comme un fils parle de ses parents avec beaucoup d'amour et d'admiration.
Absolument. C'est l'écriture d'un fils. C'est l'écriture d'un fils. Et c'est pour ça qu'à l'intérieur, j'ai mis le focus sur la vie. Comme dans toute vie, avec toute l'affection qui lie les parents à leurs enfants, mais aussi durant le génocide est arrivé quand j'avais 24 ans. Donc j'étais un jeune homme, je venais de sortir aussi de l'adolescence avec les conflits qui naissent, donc comme dans toute famille, dans l'adolescence aussi. Je raconte une conversion qui s'est mal passée, mais comme hier d'ailleurs, j'ai rencontré des personnes après dans le public qui me racontaient une histoire pareille d'un enfant qui s'est converti à l'islam et la famille, ça les a fait un peu, ça les a bousculés. Et pour moi, c'est très important parce que ça permet d'aller sur. Pour moi, ce qui était important, c'est que chacun dans le public, où qu'il soit, où qu'il vive, puisse se figurer cette histoire, en fait. Parce que c'est la chose la plus commune que nous avons, quelle que soit notre culture, nos pays. On traverse dans le théâtre avec cette forme, on rencontre des publics totalement différents. Mais chacun vient d'une famille. Tous, nous avons eu des parents, nous avons des frères, et c'est à l'intérieur de ça, une accroche où le public peut vraiment se retrouver, avec les siens aussi, avec l'amour. Et je disais, on vient d'Australie-là pour l'instant, donc je rencontrais à des publics, quelqu'un qui avait dit, bon voilà, je suis rentré de ce spectacle et je suis allé embrasser ma mère. Et je trouvais que c'était vraiment ça que j'avais envie de transmettre. À quel point la vie est sacrée, qu'elle est précieuse, et qu'il faut absolument en profiter de chaque minute, de chaque seconde, parce que c'est ce qu'il y a de plus précieux dans la vie.
Nous étions déjà en vacances de Pâques. Je devais avoir un long entretien avec mes parents le 6 avril. Ce jour-là, je suis resté à Monterrey. Ma tante n'allait pas bien. Mon père me déconseilla au téléphone de voyager la nuit. Nous allions nous voir le lendemain. Le lendemain au matin du 7 avril 1994 à 10h du matin, 20 militaires de la garde présidentielle en armes entrèrent dans notre jardin sur la colline de Kimomula. Abattirent Cyprien Mugamba, mon père, maître, 59 ans. Daphrose Mugamba, ma mère et confidente, 50 ans. Olimar Serge Pied Melo Mugamba, mon jeune frère, un grand échalas de 19 ans.
Extrait de Eva Rwanda, Lettre aux absents, au Théâtre d'Arras, jeudi 20 mars dernier. On retrouve à notre micro Dorcy Rugamba, auteur, metteur en scène, comédien.
Abatoni Emelita Rugamba, ma sœur de 22 ans, une fille émotive, franc-parler, passionnée par les fleurs.
Alors, vous l'avez dit, il est pas mal question de religion dans ce spectacle. Hein. Il fait référence à l'anticléricalisme de votre père, sa conversion au catholicisme. Le conflit que vous avez évoqué entre vous, vos parents, lorsque vous vous convertissez à l'islam, il y a aussi ces doutes, hein, ces questions sur la foi, le fait de faire confiance aux autres après le génocide aussi, c'est des questions d'ordre philosophique et de spiritualité.
Bien sûr, je crois que c'est la question qui vient juste après un crime pareil. Dans tous les crimes, c'est la question qui vient après la Shoah, après un génocide. Où est Dieu ? On se dit, mais comment est-ce possible que pendant un temps, on a l'impression que tout simplement tous les diables sont sortis de leur boîte et que les victimes sont massacrées sans aucun recours, avec une violence, avec une cruauté. Et ça ébranle complètement les consciences par rapport à la question de la divinité. C'est des questions théologiques aussi qui ont été posées pendant très longtemps. S'il y a un Dieu quelque part dans les cieux, pourquoi permet-il de telles atrocités ? Et puis il existe même vraiment une culpabilité de le survivant. On se demande pourquoi est-ce que je suis là, moi, que d'autres subi le sort, pourquoi eux ? Il y a là-dedans des enfants, je raconte aussi vraiment mes petites sœurs, les enfants les plus jeunes, en fait. La plus petite victime qu'on a tuée chez nous avait 6 ans. Donc ce massacre des innocents pose la question. Il se trouve que, évidemment, la question de la foi est venue au sein de notre famille, comme vous le disiez. Mes parents étaient très chrétiens, ils ont fondé une communauté, ils étaient très engagés spirituellement. Et donc, c'est quelque chose qui rythmait la vie. Mais j'ai connu deux pères aussi. Son premier parcours, et qui me parlait beaucoup, c'était un intellectuel, un écrivain absolument anticlérical. Bien qu'il ait failli devenir prêtre, il est sorti défroqué à quelques années de l'ordination pour devenir un athée vraiment farouche. Et la religion chrétienne est arrivée dans les bagages de la colonisation et les deux allaient de pair. Et cette part rebelle chez lui, cette écriture vive, cet homme décolonial déjà à cette époque, de le voir un jour complètement se convertir a été un choc total, vraiment dans ma vie en tout cas, un retournement spectaculaire. Et c'est longtemps après que j'ai... Oui, c'était important que je mette les mots dessus, que j'essaie de le comprendre aussi, de comprendre qu'il a trouvé dans la foi sans doute... une manière active de continuer le combat qui était le sien, qui était aussi le combat de la paix, d'apaiser les cœurs, de colmater en fait ce que la colonisation a fait de pire au Rwanda, séparer les gens, comme tout pouvoir dictatorial ou l'empire, c'était ça, divide et impera. C'est vraiment, on ne peut s'emparer d'une société qu'en la divisant. Et c'est ces divisions, ces fractures, finalement, qui ont fini par avaler tant de monde. Et voilà, c'était vraiment à la fois, ça rythmait vraiment une partie essentielle de ma vie, mais effectivement, après le génocide, les questions liées à la foi sont devenues tellement importantes, elles sont aujourd'hui, où les religions servent aussi de prétexte à la barbarie. On voit ça. On voit beaucoup de crimes qui... C'était pas le cas au Rwanda, mais bon, la question de Dieu reste toujours posée.
Alors, il y a ce que le récit permet, le récit intime permet, et puis ce qu'il ne permet pas, ou moins peut-être, c'est une vision politique. Bon, il y a quand même des éléments, vous parlez du poids de l'héritage colonial, il y avait déjà cette ambiance de guerre civile qui était là, mais il n'est pas question dans le spectacle, dans la lecture, dans le récit, du rôle de l'armée française ou des extrémistes hutus aussi.
C'est exprès. C'est exprès parce que d'abord, j'ai déjà travaillé là-dessus. Vous évoquiez, par exemple, la pièce Rwanda 94. Rwanda 94, c'est des moments aussi très différents. C'est-à-dire que, par exemple, Rwanda 94, c'était quasiment au lendemain du génocide. Ça venait de se passer. La nature même du crime qui s'était passé au Rwanda n'était pas très connue. C'était toujours même en débat, y compris aux Nations Unies, dans les journaux, un peu partout. La première réaction, ça a été un peu ce récit que l'on retrouve souvent en Afrique quand il est question de conflits, ouais, des tribus qui s'entretuent, qui se détestent depuis la nuit des temps. Et comme toute explication finalement à cette violence qui a pris tout le monde par surprise. Et là, c'était important, ce Rwanda 94, c'est une pièce qui dure 6 heures, de prendre vraiment le temps de donner des éléments à un public, surtout c'était des publics européens, de se figurer, vraiment d'avoir des éléments de contexte. Comment est-ce possible? Qu'est-ce que c'est que ce crime qui a pris place? Qui sont les acteurs à la fois locaux, internationaux et tout ça? Je pense que c'était nécessaire. Et j'ai continué d'ailleurs sur d'autres travaux. J'ai travaillé sur la Shoah, sur l'instruction de Peter Weiss, moi-même déjà, pour comprendre qu'est-ce qui se passe, quelle est la logique finalement qui est à l'œuvre. C'est un crime idéologique. Un crime idéologique commence par un récit. Et c'est la violence est d'abord prend place dans les mots. C'est ce récit qui finit par être matérialisé par des éléments armé. Après, je crois qu'on est dans un autre temps. On est dans un temps différent. On n'est plus au lendemain du génocide. Comme je disais, on est 3 décennies après. Il y a eu beaucoup de travaux. Il y a eu des travaux, des livres, des films qui ont été écrits. Je crois que les gens connaissent plus ou moins, ça dépend aussi de la proximité que les gens ont avec cet événement. Mais disons que ils savent ce qui s'est passé. Ils savent qu'il y a eu un génocide, que ce n'était pas une guerre civile, que les victimes n'étaient pas des cibles militaires, qu'ils n'étaient pas armés, qu'ils étaient totalement à la merci de leurs bourreaux. Mais ces éléments de contexte, la grande histoire, effectivement, a fini par, comme je le disais, faire disparaître complètement les victimes. D'une manière où on sait, immédiatement tous ces chiffres, tous ces éléments de contexte, tous ces travaux d'analystes en fait. Mais pour les victimes et surtout pour les survivants, c'est un autre drame total. Les gens disparaissent complètement. Les gens disparaissent. Jean Ferrat chantait le sang sèche vite en entrant dans l'histoire. Et je rencontre beaucoup d'autres survivants. Pour nous, c'est une mémoire vive. C'est des gens avec qui on a vécu. Et c'est très concret dans notre mémoire vive à nous. Et de les voir complètement ne devenir plus... Ils deviennent réifiés, en fait. Et donc, pour moi, c'était très important de faire un pas en arrière, sortir de la vision globale, finalement, de l'histoire, et prendre une loupe et, bam, descendre vraiment au niveau d'un noyau, d'un cercle familial, et de raconter comme un fils, vraiment. Une histoire qui pourrait être universelle, parce qu'elle pourrait être celle de tout le monde, de monsieur tout le monde, qui qu'on soit. Et donc de se rattacher vraiment à cette part concrète et commune, réelle, pour permettre à ce que, oui, qu'est-ce que c'est qu'un génocide au niveau d'un individu, au niveau d'une famille? Et c'est pour moi, je pense qu'on fait du théâtre. Au théâtre, on raconte beaucoup de crimes. C'est souvent parce que c'est un espace sacré où la violence peut être symbolisée. Que ce soit pour un génocide ou pour d'autres choses, il suffit de lire Shakespeare pour se rendre compte qu'il y a beaucoup de sang. Et la nécessité, d'un moment donné, de ce cercle où les gens sont rassemblés autour de quelque chose, de raconter des choses qui peuvent être difficiles, c'est de recréer de l'empathie dans la société. Mais on ne peut pas ressentir quelque chose qui est lié à d'une émotion par rapport à un chiffre. C'est froid un chiffre. Qu'on dit à 1 million de morts, mais certes c'est impressionnant. Ça touche le côté cérébral, on a une information, mais on ne se figure pas. Et je pense que c'était pour moi important de repartir vraiment, de comprendre que celui qui meurt occupait une place. Il était au milieu de plusieurs relations. Et que ce meurtre met fin à cette histoire de cette manière-là, brutale, et les dégâts que ça fait naître. Donc, pour moi, c'était nécessaire vraiment de ne pas se focaliser sur la colonisation, le contexte, l'explication, le rôle de l'armée française, de l'Église catholique, de la communauté internationale qui a abandonné les Rwandais, des nations. Tout ça est vrai, mais on est dans différents récits qui ont des fonctions différentes.
Dorcy Rugamba, auteur, metteur en scène et comédien, il était de passage à Arras pour la représentation de la lecture-spectacle Eva Rwanda, Lettre aux absents, c'était au Théâtre d'Arras, dans la programmation du Tandem les 20 et 21 mars dernier. Le texte du spectacle est également disponible en librairie.